Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live, Intégral Euro,
Benoît Boutron.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est donc l'After Live Intégral Euro 2024 et nous sommes ensemble jusqu'à 23h avec une Dream Team de qualité à mes côtés. Coach Courbis, salut Roland.
Salut, salut, ça c'est gentil.
Et Manu Petit, salut Manu.
Salut tout le monde. Enfin, moi ça m'embête un peu que tu dois préciser avec le qualificatif.
Pourquoi?
Parce que ça veut dire que finalement en fait on est banal.
Ah non, au contraire.
Ah d'accord.
Ok.
Quand on dit de l'ironie dans ce que t'as dit.
Ah pas du tout. D'accord. Ah mais je le pense vraiment.
Ok.
On se connaît un peu quand même, Manu.
Ouais. Ah, oh, j'irai pas jusque là.
Bon, en tout cas, on va vivre ensemble cette belle soirée. C'est le dernier huitième de finale. 21h, Autriche, Turquie, à Leipzig. On va en parler avec Xavier Grimaud qui est au stade. Salut Xavier.
Salut Benoît, salut Manu, salut Roland, salut à tous.
Ouais, les gars, la France, les Pays-Bas et peut-être l'Autriche qualifiée. Il était là le groupe de la mort en fait. Hein, on nous a bassinés avec la Croatie, l'Espagne, tout ça.
Tu te rends compte?
Ah non, en fait, c'était nous.
Ah, puis la Pologne, ils ne sont pas passés loin.
Ouais, Polonais, c'était pas là en huitième de finale. À 20h30, on va présenter ce match, hein, Xavier. Est-ce que les Turcs peuvent créer la sensation? On parlera également de l'Autriche avec cette présentation de Paulo Breitner. On vous rappelle que les Pays-Bas sont qualifiés pour les quarts de finale. Victoire 3-0 face à la Roumanie. Johan Crochet, notre spécialiste également du foot néerlandais, est là également. Salut Johan.
Salut Benoît, bonsoir à tous.
Salut Johan. Ravi de te retrouver également. Et puis on parlera de l'équipe de France à 20h15. Jeannot Séguier en direct de Paderborn au lendemain de la victoire des Bleus face à la Belgique. 1-0. Donc on sera là, on vous donnera toutes les infos. Est-ce que ces Bleus-là peuvent aller au bout avec un jeu si pauvre? On a hâte d'entendre Coach Courbis sur ce sujet. Et vous le savez, c'est la magie d'RMC, radio officielle de l'Euro 2024, l'expérience RMC. On vous envoie en Allemagne assister au quart de finale de l'Euro 2024 vendredi soir, France-Portugal. On vous offre le voyage à Hambourg, la rencontre avec les équipes d'RMC avant le match. Et bien sûr, vos deux places pour ce match France-Portugal, vendredi 21h. Soyez bien attentifs tout au long de cette soirée, parce que dès que vous entendrez cette alerte, vous aurez 5 minutes pour envoyer Euro, E-U-R-O, au 7-32-16. Euro au 7-32-16. 20h03 sur RMC, c'est parti pour l'After Live, intégral Euro 2024. On y va du coup.
L'After Live, intégral Euro.
Leipzig, Xavier Grimaud, un mot de l'ambiance qui t'attend. Est-ce que le stade est acquis à la cause de la Turquie? Parce que c'est le cas depuis le début de la compétition. Ce Turquie-Autriche qui nous attend, tu dois voir du rouge partout là, c'est sûr.
Ouais, alors déjà la RB Leipzig Arena, les sièges sont rouges. Donc déjà le stade est complètement rouge. Les supporters autrichiens sont en rouge et les supporters turcs sont en rouge. Donc là il y a vraiment du rouge partout. Mais oui, non, clairement le stade sera évidemment acquis à la cause des Turcs. Il y a 40 000 places, un petit peu moins dans la configuration Euro ici dans ce stade. Et je pense qu'il y aura au moins 20 000 Turcs. Ils font un bruit déjà assez énorme quand les joueurs turcs sont entrés sur la pelouse. Voilà, c'est les ambiances les plus chaudes d'Europe en Turquie. Et forcément les supporters turcs sont bien organisés et ils vont avoir du mal à exister les Autrichiens, mais ils devraient exister sur le terrain. On va dire ça puisque logiquement ils sont censés être quand même légèrement favoris face à la Turquie, mais ça va nous donner un match assez intéressant.
Ouais.
On a les compos.
Les compos, les donnera à 20h30, Xavier, le temps de rétablir ta ligne. L'absence majeure côté turc, c'est Çalhanoğlu, le capitaine de cette équipe, qui est suspendu. Arda Güler, lui, sera bien titulaire. On aura le détail de la compo turque et de la compo autrichienne dans une vingtaine de minutes. Mais allons-y donc sur le huitième de finale qui vient de se terminer. Johan Crochet, ça te met un peu de baume au cœur, toi, le spécialiste du foot italien. Enfin, une de tes équipes préférées qui se qualifie pour les quarts de finale. Et avec un score large, en plus 3-0, il n'y a pas eu photo cet après-midi entre les Pays-Bas et la Roumanie.
Ouais, parce que finalement, les Pays-Bas, dans cette phase de groupe de l'Euro, jusqu'à présent, ils n'avaient pas montré grand-chose. La première mi-temps contre la Pologne avait été bonne lors du premier match. Mais après ça, entre la deuxième mi-temps très difficile où ils avaient beaucoup souffert, beaucoup subi contre la Pologne, le match contre la France qui était vraiment absolument catastrophique et le match contre l'Autriche qui était pas loin d'être aussi catastrophique, pas trop dans... Il y avait eu du circuit de jeu offensif où ça avait bien marché, mais défensivement ça avait été absolument catastrophique. Là, on a vu une équipe qui malgré 10-15 premières minutes où ils ont un peu subi le pressing de la Roumanie, qui a mis beaucoup de rythme, d'intensité, comme on a vu depuis le début de l'Euro, où je l'ai trouvé vraiment à la hauteur de l'événement d'un huitième de finale. Après, une fois que les Pays-Bas ont accéléré beaucoup sur le côté droit, d'ailleurs, tout est beaucoup passé par le côté droit, où Dumfries a fait pas mal de différences par la vitesse et par son volume de course. Les Roumains ont eu beaucoup plus de difficultés. Et puis, vous avez un joueur qui avait marqué la Coupe du Monde 2022, qui avait été... l'une des rares satisfactions, mais peut-être la plus grosse satisfaction des Néerlandais, Cody Gakpo, qui est aujourd'hui le joueur majeur de cette équipe-là, pas le joueur au statut, parce qu'évidemment Van Dijk est au-dessus, ouais. Mais quand on parle de joueur majeur, c'est facteur décisif. Vous avez vraiment un joueur qui, quand il prend le ballon, c'est ces joueurs-là de côté qui aujourd'hui gagnent des 1 contre 1, ont la qualité de frappe, les débordements, repiquer axe pour frapper intérieur. Et ben lui, il a tout ça. En plus, il est grand, il va vite. Donc il a un profil très très moderne et on l'a vu aujourd'hui, il fait des différences qui sont énormes.
Buteur et passeur. D'ailleurs.
Voilà, il marque sur une frappe où il commence déjà sur le côté gauche, il revient intérieur, frappe très forte, 121 km/h quand même la frappe quand elle part. Et puis le deuxième but, débordement côté gauche, habilité, agilité aussi pour sur la ligne de fond pour réussir à driver un peu le ballon et la passe devant le but. Donc c'est vraiment voilà, les Pays-Bas pourront pas faire sans lui pour aller loin dans cette compétition.
Cody Gakpo, meilleur buteur de l'Euro, à égalité avec Miko Tadze, Moussiala.
Le premier but, hein, et on sait très bien que l'ouverture du score dans un match, lors d'un match, c'est quelque chose de très important. Moi, je le mets à 99,9% pour le gardien.
Ah oui, c'est erreur de gardien de but sur ce but de Gakpo, l'ouverture du score.
Horrible.
Horrible. Juste un mot donc sur les Néerlandais, Manu, parce que on est du bon côté de tableau là, de la bonne partie, parce que c'est la partie de la Suisse, la partie de l'Angleterre, la partie qui semble sur le papier la plus ouverte.
Enfin, t'arrives en quart de finale, hein, je dirais. Il reste que 3 matchs.
En quart de finale, tu prends Autriche ou Turquie. Hein. Donc.
Et l'Autriche à l'heure actuelle, c'est pas un cadeau.
Ils ont battu 3-2. Hein,
voilà. L'Autriche, j'ai gagné.
Oui, bien sûr. Donc.
Non, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de garantie. Et puis, il ne reste que 3 matchs pour arriver en finale. Donc, aujourd'hui, tu vas rencontrer des équipes qui auront le niveau, à mon avis, supérieur à ce qui a été affiché pendant les phases de poule, parce que la gestion est différente.
Le match de ce soir, ça ne te fait pas changer d'avis sur le niveau des Pays-Bas ?
Moi, je ne les ai jamais mis parmi les favoris. Je les ai mis dans les outsiders. Je pense qu'à l'heure actuelle, collectivement, mais même en termes d'individualité, il y a des équipes qui leur sont supérieures. Donc on verra justement avec ces fameux tableaux, c'est comment ils sont dispatchés. Peut-être que ça peut être la chance des Pays-Bas justement.
Ouais. Roland, qu'est-ce que t'en penses ?
Ah ben ils ont quand même tout pour justement aller au bout maintenant. J'ai regardé un petit peu les éventuels futurs adversaires. C'est vrai qu'avec en plus le niveau qu'on a vu aujourd'hui, ça peut être le trouble fait.
Parce qu'on parlait des individualités, Gakpo ressort dans cette équipe. On a du mal à trouver les autres leaders quand même. On pense à Memphis Depay qui traverse un euro un peu difficile.
Et alors là, aujourd'hui, c'était un peu mieux dans, c'est dans un leader, son jeu d'au but et dans l'orientation, c'était un peu mieux.
Vous avez toujours considéré, excuse-moi, t'interromps, Memphis Depay comme un leader de.
Objectivement, non.
Enfin, moi, c'est 10 ans que je regarde sélection, jouer, on me dit que c'est un super joueur.
Je crois qu'il a 3 ou 4 sélections de Robin Van Persie.
Il m'a jamais percé l'œil.
C'est pourtant un des leaders.
En fait, il y a un moment où il a été un élément majeur des Pays-Bas. C'était avant et post-Covid, notamment avec Ronald Koeman, son premier passage, où en fait, tu sais, il avait Wijnaldum.
C'est des fulgurances, parce que ça dure pas.
Ouais, mais alors c'est duré quand même 1 an et demi, 2 ans, ouais. Où tu sais, il y avait Wijnaldum, qui était encore au top niveau à Liverpool. Et Koeman avait choisi quelque chose de très intelligent qui marchait beaucoup. Ils avaient éclaté l'Allemagne plusieurs fois d'ailleurs, qui était quand même encore une grande équipe et qui l'a encore aujourd'hui. Mais Depay venait face au jeu en tant que faux numéro 9 et Wijnaldum lui passait dans le dos en tant que numéro 10 qui se projetait beaucoup. Et cette combinaison-là marchait énormément parce que pour un défenseur, c'était un peu dur. Est-ce que tu suis Depay ou est-ce que tu couvres derrière? Comment le milieu gère un peu Wijnaldum dans sa zone qui, lui, va se projeter? Et les deux marchaient très bien. Ça a été le moment, un peu l'apothéose de la carrière en sélection de Depay. Maintenant, aujourd'hui, il y a une vraie difficulté. C'est que c'est pas tant sur les qualités techniques, il peut les avoir, mais il fait plus la différence physiquement. À une époque, il était encore capable de faire un peu la différence physiquement. Là, aujourd'hui, tu sens qu'il est un peu dans le dur, que pour accélérer, pour prendre de vitesse, pour se retourner rapidement, pour éviter les duels, il est un peu moins bon. Alors moi, ça c'est l'avis de Koeman de le mettre faux numéro 9. Moi, tu me demanderais encore aujourd'hui, je ne mettrais absolument pas Depay faux numéro 9. Enfin, en tant que numéro 9, je ne mettrais pas Depay. Quand tu as la chance d'avoir Zirkzee, qui n'était pas dans la sélection au départ, Zirkzee, il a été appelé parce que Brian Broby a eu des problèmes à l'entraînement, à un mollet, on ne savait pas trop ce qu'il avait, donc il l'a rappelé. Parce qu'il lui restait une place d'ailleurs. mais Zirkzee qui a été énorme en Serie A avec Bologne, le Bologne de Thiago Motta, qui est un plus dans le type de joueur, dans le prototype d'attaquant qui fait jouer les autres. Donc il a cette capacité-là de Depay, il est bon techniquement, mais il bouge beaucoup plus en plus. Et il aide beaucoup plus en phase défensive. Mais Kuban, on l'a vu, hein, Wijnaldum, il a la cave depuis maintenant bien longtemps. Ouais. À chaque fois, sauf aujourd'hui, quand il rentre à une demi-heure de la fin, il fait rentrer Wijnaldum. Alors qu'il n'apporte strictement rien. Le premier match contre la Pologne, Wijnaldum, c'est 6 ballons touchés en 35 minutes.
Bah, écoute, moi, tu me parles de Wijnaldum et de Depay. C'est deux joueurs, il y en a d'autres également, qui sont au sein de l'équipe nationale néerlandaise depuis tellement d'années. Mmh. Mais je ne sais pas, en fait, surtout ces dernières années, sur Wijnaldum, depuis qu'il est parti de Liverpool, c'est plus du tout le même joueur. Et Memphis Depay, partout où il est allé, ça n'a jamais été un hit non plus. Ça a toujours été des fulgurances, mais sur la durée, il n'a jamais été là. Et puis, quelque part, il n'a jamais été au rendez-vous de son potentiel qu'on voyait en permanence. Quoi. Mmh. C'était toujours un futur espoir, futur espace. Ça n'a jamais vraiment véritablement confirmé. Et je n'arrive pas à comprendre, vu la richesse quand même de ce pays footballistiquement, je n'arrive pas à comprendre qu'il soit toujours obligé de les appeler en sélection alors qu'il y a des relèves derrière.
Quoi. La seule explication qu'on peut te donner, c'est le choix du sélectionneur. Il n'y en a pas d'autre.
Mais je ne comprends pas. Ou alors ils ont le même agent. Ils ont même, peut-être le même agent, je ne sais pas. Mais parce que moi, je n'ai pas d'explication sportive.
Non, il n'y en a pas. Parce qu'en plus, tu sais, même là, je viens de parler de Zirkzee, qui est pour moi vraiment le joueur qu'il faudrait installer. Il n'y a vraiment pas photo. Mais même un joueur comme Broby, qui est beaucoup plus brut, mais qui a une
Broby, force physique, c'est celui qui prend beaucoup la profondeur, Ajax, très costaud, très véloce.
À l'époque, moi je me souviens, ça fait 5-6 ans que je le suis, il était encore en U16 quand je l'ai découvert.
Monstrueux physiquement.
On le comparait beaucoup à Lukaku dans les équipes de jeunes, parce qu'il avait cette présence, il était déjà au-dessus des autres physiquement, il était plus haut, plus large, plus carré, etc. Aujourd'hui, il fait moins de différence parce que les autres sont devenus aussi plus grands, plus costauds. Dès que tu arrives dans le monde adulte, même si en jeune, t'es beaucoup plus gros, beaucoup plus large que les autres, au niveau adulte, cette différence-là,
elle se réduit.
Elle se réduit, exactement. Mais c'est quand même un très bon joueur. Il met une vingtaine de buts la semaine dernière avec l'Ajax. C'est un joueur de profondeur. Il fera pas du tout les mêmes choses que Depay ou Zirkzee.
Je sais pas, mais tu as l'impression d'être vraiment passionné par l'équipe néerlandaise. Moi, il y a quelque chose, en fait, que je vois depuis un petit moment maintenant du côté des Pays-Bas, c'est que traditionnellement ils ont toujours joué avec des ailiers qui collaient la ligne.
Ça, c'est fini.
Avec des joueurs, surtout aujourd'hui dans le football moderne, les grandes nations, les grandes équipes, ils ont tous des ailiers qui sont surpuissants, qui vont à 2000 à l'heure et qui bouffent la ligne. Et ben bizarrement, le pays qui a presque inventé ça avec Cruyff et compagnie, on se retrouve avec une équipe qui joue de façon axiale et qui n'utilise plus quasiment plus ses couloirs, alors, avec des ailiers qui collent la ligne.
Alors il y a une explication sur le dernier mondial. C'est que Louis van Gaal, qui était l'ancien sélectionneur, avait choisi un système en 3-5-2.
Ouais.
Donc, où tu avais des pistons qui pouvaient avoir ce rôle-là vraiment sur les côtés. Par contre, devant, c'était vraiment déserté. Il avait réaxé Cody Gakpo qui jouait en position plus centrale. Là, Cody Gakpo, c'est quand même ce prototype d'ailier-là. C'est quelqu'un qui... Alors lui, il a en plus la capacité en faux pied de rentrer à l'intérieur et de frapper fort. On l'a vu aujourd'hui.
Ouais, mais il a la capacité aussi de partir extérieur. C'est pas véritablement un ailier.
C'est un ailier de formation. Il a toujours joué là. À Liverpool, normalement, il joue là.
C'est plus un joueur axial. Oui, il a joué à différentes reprises, sur les côtés.
Je sens pas convaincu par cette équipe néerlandaise. Tu crois pas trop, j'ai l'impression, Manu.
J'y crois pas trop parce que elle a de la qualité, elle a pas non plus énormément de qualité époustouflante, mais si elle peut s'appuyer sur une ossature, une colonne vertébrale qui tient la route, commencer par Van Dijk derrière, si Van Dijk retrouve justement les caractéristiques qu'on fait de lui le meilleur défenseur au monde et avant la pandémie, je te dis, là, ils peuvent voyager.
C'est pour ça que le match de soir leur fait du bien, Roland, parce qu'ils restaient sur une défaite 3-2 contre l'Autriche. Là, ils encaissent pas de but, ils gagnent 3-0. Ça va les remettre en confiance,
Puis bon, après, donc, on sait très bien que ça peut changer à tous les matchs. Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec Manu, mais cette équipe-là, l'outsider aujourd'hui avec le concours de circonstances qu'a eu, où il y a maintenant un côté, je dirais, assez sympa et un autre côté assez difficile. Mais dans ce côté sympa, que cette équipe-là aille en finale, j'aurais été étonné alors qu'aujourd'hui je ne le suis plus.
Ouais. Mais tu soulignais l'aspect défensif, Benoît.
Ouais.
Si on prend la phase de groupe avant aujourd'hui, le meilleur joueur de ce qu'on va appeler le bloc défensif, c'est le gardien.
Ouais.
C'est pas Van Dijk, c'est pas super Defy, rôle, c'est pas Hake. Encore que Hake. Moi, j'aime vraiment Hake. Mais ouais, encore une fois, c'est un choix de Koeman, arrière gauche.
Même s'il peut jouer là avec City parfois.
Pour moi, mais alors le jeu est très différent entre City et ce qu'on l'a vu, parce que quand Van Dijk joue arrière gauche avec City, et quand il joue arrière gauche avec Croatie, c'est pas non plus pareil.
Mais quand il joue arrière gauche avec City, c'est souvent une défense à 4, pas une défense à 3.
Et c'est pour ça que moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait une charnière Hake, Van Dijk. en mettant quelqu'un à gauche, un vrai latéral gauche pour le coup.
Ouais.
Mais c'est vrai que Van Dijk, il a été en difficulté contre la France, contre l'Autriche, il est toujours 4 mètres derrière sa ligne défensive, donc il couvre tous les hors-jeux. De Vrij, bah, il fait ses années, hein, le pépère, voilà, il est pas titulaire à l'Inter, il y a une raison aussi. Dumfries, c'est quelqu'un qui contre-attaque très bien.
Et c'est, lui, c'était le piston par excellence de...
Voilà,
mais j'arrive toujours pas à savoir. C'est quoi? C'est un défenseur, un attaquant?
Bon, c'est un piston.
C'est un piston contre-attaquant. Voilà. D'accord. Je veux pas de mieux te le dire.
Les Néerlandais joueront leur quart de finale samedi 21h à Berlin contre le vainqueur du match du soir, hein, Autriche-Turquie. Ça sera donc un match assez ouvert. Et ensuite, pour les demi-finales potentielles, ils croiseront le vainqueur du match entre l'Angleterre et la Suisse. Merci, Johan, d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Bonne soirée à toi. Salut, à bientôt sur RMC. Roland reste là. Manu aussi, on parle des Bleus dans un instant, direction Paderborn avec Jeannot Rességuier. Est-ce que ces bleus-là peuvent aller au bout avec un jeu si triste? 32-16 si vous voulez participer au débat avec nous. 20h16, vous écoutez RMC, restez là, vous êtes bien.
Saison 2023-2024, BFM TV est la première chaîne info de France, et ce depuis 16 ans. 97% des Français regardent BFM TV, 12,3 millions de téléspectateurs chaque jour. BFM TV, première sur l'info.